je ne vais pas engager le débat de fond. Je me suis déjà exprimé hier sur ces questions. Je suis professeur de philosophie, donc en IUFM, donc la laïcité, la citoyenneté, des questions que j'aborde. Je voudrais juste vous demander la référence des cahiers pédagogiques d'où est extraite la citation. Oui. Et pour le débat, moi, je ne sais pas s'il y a dans la salle des collègues du secondaire qui d'histoire géo qui enseignent le fait religieux à l'école. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y en a et s'ils pourraient nous livrer leur expérience pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils en tirent. J'en avais parlé avec Régis Debré, parce que je crois qu'il était à l'époque un peu l'instigateur de cet enseignement, mais personnellement, je n'ai eu aucune retombée, donc ça m'aurait intéressé d'avoir l'expérience de quelques personnes à ce sujet.
Non, moi c'était une petite remarque pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question dont on procède par insinuation pour désigner l'islam sans jamais le nommer.
Parfois, sans jamais.
Oui. Mais là, en l'occurrence, et souvent, ça passe effectivement par cette question du sexisme, l'égalité homme-femme. Donc ça me semble particulièrement frappant. Et il me semble que là, il y a vraiment une relation dialectique entre la désignation de l'autre comme étant foncièrement, en l'occurrence, sexiste, et la définition d'une identité nationale qu'il serait exempte absolument de tous ses défauts, on pourrait dire. Et c'est extrêmement pratique, effectivement, de désigner l'homme musulman comme sexiste, parce que ça permet, de manière dialectique et toujours dans le silence, quelque part, de se désigner soi-même comme étant féministe, progressiste, etc., etc. Et ça, il me semble qu'on a vraiment bien vu cette façon qu'ont les élites blanches de s'exempter de tout cela, notamment lors de l'affaire DSK, où il était absolument inimaginable qu'un homme blanc, riche, puissant, puisse commettre un tel viol. Puisqu'en l'occurrence, il était accusé de viol. Et là, je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que donc, vous avez cité votre expérience personnelle et l'expérience de votre fils. Donc, je vais me permettre, très rapidement, sans m'étaler sur ma situation, de faire référence à ma propre situation. Donc, moi, j'enseigne ici à l'ENS. Donc, j'ai un CV, du point de vue de l'institution, qui devrait être considéré comme irréprochable. Je suis normalienne, agrégée, enfin voilà, c'est pas du tout pour me. C'est juste pour resituer les choses. Et il se trouve que dans ma courte et jeune vie, là où j'ai eu le plus affaire au sexisme et au racisme, c'est dans cette école qui est l'école de l'élite. Voilà, c'était juste pour resituer les choses, que effectivement. Ici aussi, il y a des choses qui se passent de l'ordre de la discrimination qui peuvent être extrêmement violentes, parfois. Enfin, je n'ai pas vécu des choses violentes physiquement, bien sûr, mais très très violentes symboliquement aussi. Oui, non, mais c'était. Oui, j'avais bien compris, hein, mais c'était simplement pour mettre en perspective les choses, parce que. Oui, ça posait la même question, mais. Oui, mais enfin voilà, c'était simplement pour resituer le fait que les élites, pour elles, c'est extrêmement pratique de désigner cette altérité radicale, tout en continuant à pratiquer un sexisme très fort et un racisme quotidien.
Oui, moi je voulais juste dire que. Ça m'agace un petit peu. Ça m'agace un petit peu de toujours entendre taper sur l'islam, sur l'islam qui n'est pas tolérant, les musulmans qui ne sont pas tolérants. C'est parce que Stéphane parlait de son fils que ça m'a rappelé une histoire qui m'est personnelle. Moi, étant gamine, j'étais la seule du village, un petit village de 1000 habitants dans le nord du Rhône, à ne pas aller au catéchisme. Et donc, il y avait une école privée, il y avait le catéchisme, il y avait l'école publique aussi. Et donc, je me suis pris des marrons, mais des vrais marrons, parce qu'il y avait des marronniers sur la place de la gare, par les gamins de l'école privée, parce que je n'allais pas au catéchisme. Donc moi, enfin, quelque part, je trouve que au niveau catholique, c'est pas mieux, quoi. Et moi, ça m'agace que ce soit seulement, on parle seulement de l'intolérance des musulmans, quoi. Il n'y a pas que.
Par rapport à ça, moi, je note que l'institution souhaite que soient développés des projets d'éducation à la citoyenneté en direction des élèves dans les zones d'éducation prioritaire, pas en milieu rural. Et à qui on demande dans les politiques publiques, de la politique de la ville par exemple, de développer des projets sur le mieux vivre ensemble ? À ceux qui sont dans les quartiers. On ne va pas demander à ceux qui sont dans des ghettos blancs de plus en plus maintenant même entourés de grillages, de mieux vivre ensemble. Hein ? On va demander à ceux qui sont, on les nomme pas, mais pas comme nous, donc les autres, de vivre mieux ensemble avec un petit peu des nôtres, quoi, qui leur ressemblent un peu du côté social, pas avec nous autres qui avons le pouvoir.
Oui, deux, trois petites choses. Il y aurait beaucoup de choses que j'aurais envie de dire. Mais peut-être deux, trois éléments un tout petit peu décalés. Mes collègues ne m'en voudront pas, je pense. D'abord pour dire, et ça c'est pas du tout décalé, que ce type de questionnement-là, sensible, vif, nous avons fait le choix d'aborder ce type de questionnement-là à travers cette formation. Et c'est bon. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est bon. Premier point, c'est bon parce qu'on ne le fait pas, parce que c'est trop chaud, trop sensible, parce que ça fait référence à du personnel, c'est par là que ça a commencé, et c'est bien normal. D'autant plus normal qu'on ne fait jamais, ou très peu, cette ouverture-là, parce que justement, trop sensible. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point que je souhaitais également rajouter, c'est que, c'est là que c'est peut-être un tout petit peu décalé, je crois que, quel que soit l'état de notre institution, nous enseignants, nous formateurs, nous chargés de recherche, d'études, chercheurs, je ne sais pas, mais pour ce que je sais de mes fonctions, en tout cas, je crois que on a la place pour. J'ai pas trop envie tout le temps de me dire l'institution ne nous permet pas de. Prenons ce qu'il y a. Et il y a. J'entendais, mais que. Et finalement, les professeurs d'histoire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font. Ils font parce qu'effectivement, il y a des nouveaux programmes. Je suis professeur d'histoire. J'ai jamais pu m'en séparer, même en étant ici, chargé d'études et de recherches. J'ai gardé un pied sur le terrain. Il y a. Pourquoi ? Parce qu'il y a. Il y a possibilité de faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les cadres théoriques. Voilà un cadre théorique qui nous est donné. On peut dire, on partage. On peut dire, tiens, je partage pas, mais j'ose pas le dire. Mais il y a un cadre théorique qui est donné. Osons le faire. Et si on le fait, si on ose, on peut le faire. Je reste optimiste.
Moi, je voulais juste revenir sur la question de l'identité et de la double identité. Ouais, je reviens. Donc, sur la question de la double identité, et en particulier à Marseille, où j'ai eu la chance d'être formée par Saïd Ibrahim sur le pôle de médiation avec le clinique, pour être moi-même formatrice à ce niveau-là. Du coup, je vois, quand on forme les enseignants, les personnels, que ce soit dans les ITEP, les IME ou autres, sur cette question et sur l'importance aussi de ce que ça représente, la construction identitaire, que les personnels changent de vision de l'élève et travaillent beaucoup mieux avec les élèves et avec les familles. Et du coup, ça permet, à mon sens en tout cas, d'enlever quelque chose sur lequel est construit la plupart des textes, ce dont on en parle, cette peur. En fait, c'est la peur de l'inconnu pour moi. C'est parce qu'on ne connaît pas l'autre que l'on projette ses propres peurs finalement. Alors que lorsque l'on connaît l'autre, son fonctionnement, ce qui le porte, sa vision du monde, ça permet de travailler avec lui en prenant en compte ce qu'il est et en suivant le programme. C'est-à-dire que, à mon sens, connaître l'autre, c'est pas déroger au programme scolaire, aux instructions, etc., aux prescriptions, les hiérarchies qui pour moi sont importantes, mais de travailler en coordination, en alliance, comme on disait sur une des personnes qui est intervenue, faire alliance aussi avec les élèves pour que les élèves comprennent aussi qui est la personne en face, parce que finalement ce qu'on entend et ce que je vois de nos collègues enseignants, même en tant que formatrice, c'est que parfois ils oublient qu'eux-mêmes sont porteurs d'une identité et qu'ils ne voient l'élève qu'à travers leurs propres yeux, leurs propres regards. Et leur histoire personnelle, parfois, c'est ce que vous disiez pour les Italiens ou autres, fait qu'ils deviennent encore plus durs que peut-être le français qui vient du Cantal, de la Creuse. Ou... Excuse-moi. j'ai ciblé. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, moi, je me réfère à des gens comme Toby Nathan, il y a très longtemps, ou Moreau, qui font un travail là-dessus et qui permettent justement d'ouvrir et qui montrent bien que le fait de venir d'ailleurs ou d'avoir une culture différente ou des cultures différentes, quelle que soit la culture pour moi, n'empêche pas de réussir à l'école. Et la peur de l'islam, pour moi, c'est une peur montée. C'est-à-dire qu'on est dans la manipulation des mots et d'un inconnu, alors que l'islam, en soi, est d'abord tolérance, et c'est la paix. Donc un vrai pratiquant musulman, à part les extrémistes dont on a quelques exemples malheureux, ça sera un citoyen comme un autre, si sa pratique religieuse est simplement acceptée comme une autre.
Je voulais dire que ma plus grande inquiétude, c'est que j'observe en région parisienne des établissements où il n'y a plus, finalement, on fabrique des établissements où il n'y a plus de diversité. Donc, ce qui s'est passé pour votre enfant, à la limite, ne peut même plus avoir lieu. Donc, il y aura même pas, on ne sera même pas interpellé par des problèmes de cette nature. Il y a une homogénéité inversée. À la limite, il n'y a plus que des musulmans dans la cour. Auquel cas, on ne travaillera pas le vivre ensemble dans le cadre de l'école. Et si ça explose, ça explosera ailleurs. Il n'y aura certainement pas les mêmes réponses qui pourraient être éducatives, il me semble, dans le cadre de l'école. Et ça m'inquiète.